Bien, puisque personne ne va donner le feu vert, je vais le donner. Première chose, je vais d'abord devoir excuser Joseph Alterac, qui, ayant appris qu'il devait présenter Jacques Sadoul, a été tellement terrifié qu'il s'est inventé une maladie totalement bidon pour ne pas être là. Et donc, on m'a demandé de le présenter à sa place. Donc, moi, je m'appelle Yves Frémion. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, j'enlève. Hein, voilà. Alors, donc, je dois présenter Jacques Sadoul. Alors, il y a plusieurs manières de présenter Jacques Sadoul. Alors d'abord, on peut le présenter de manière un peu humoristique en faisant par exemple la biographie de Numa Sadoul ou celle de Georges Sadoul ou celle de tous les autres Sadoul qui ont marqué l'histoire, mais je sais que si je fais ça, il va me faire la gueule pendant longtemps, donc je vais éviter cette facilité et donc je vais vous présenter le vrai Jacques Sadoul. Alors il y avait une autre manière de présenter Jacques Sadoul, c'est que nous avons travaillé ensemble pendant 5 ans en faisant la revue Univers pour les plus anciens d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 90 ans. Vous vous souvenez qu'il y a eu une magnifique revue qui s'appelait Univers entre 1975 et 79 de mémoire, aux éditions J'ai lu, en volume simple. Et je rappelle, c'est pas rien un volume simple, puisqu'à l'époque c'était dans l'indice des je ne sais plus combien d'articles qui ne pouvaient pas bouger et qui marquaient l'état économique de la société. Et cette revue était donc diffusée en poche à des tirages qui aujourd'hui feraient rêver. Et quand je pense que nous avons dû l'arrêter parce qu'elle venait de descendre au-dessous de 30 000 exemplaires vendus, vous pouvez, pour ceux qui font des revues, voir un petit peu ce changement d'époque que nous avons connu. Donc Jacques avait eu d'ailleurs l'idée de cette revue. Et donc l'autre manière de le présenter, c'était de vous parler d'Univers et de moi, et comme ça, c'était très très pratique, je connaissais bien mon sujet, mais là aussi, il m'aurait fait la gueule. Alors je vais vous présenter le vrai Jacques Sadoul. Donc Jacques Sadoul, en dehors d'être l'éditeur de J'ai lu pendant un nombre d'années que je n'ai pas calculé, mais dont il se souvient, et qui a, dans lequel il ne dirigeait pas que la science-fiction, il a fait beaucoup d'autres choses, un peu sur le tard, je dois dire, s'est mis à écrire. Force d'éditer les autres, il a eu envie d'écrire lui aussi. Et il s'est attaqué à tous ces sujets de prédilection qui étaient, alors, dans l'ordre, d'abord tout ce qui touche au fantastique au sens large, alors aussi bien ésotérisme, satanisme, merveilleux, astrologie, etc., dans lesquels il a laissé un certain nombre de titres. Je vous donnerai quelques titres à la fin. Il a travaillé aussi dans le domaine du polar, où il s'est mis à écrire des polars, on peut dire, à l'américaine, parce qu'il avait des grands maîtres, là aussi, c'est quelqu'un qui est très fasciné par la culture américaine, des plus grands collectionneurs de pulps et de ce genre de publications. Je pense, puisque j'ai vu la photo dans un opuscule qui vient de sortir, que, d'ailleurs je vous recommande, c'est un opuscule qui vient de sortir sur Jacques Sadoul, il faut absolument le lire, parce qu'il est sorti aujourd'hui. Donc il y a toute sa bibliographie et on voit une photo de sa bibliothèque chez lui dans le Gers et elle peut faire envie à beaucoup d'entre vous, hein, je vous le dis tout de suite. Il a écrit aussi des pièces dans ce domaine, alors ça je ne sais pas lui du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais enfin, il nous en dira peut-être un petit mot. Il a écrit des ouvrages qui ont marqué en matière de l'histoire de la bande dessinée, notamment sur la bande dessinée érotique, les filles de papier, l'enfer des bulles, etc. Il a écrit une histoire de la science-fiction moderne, donc sa dimension un peu historien. Il a fait quelques autres ouvrages là-dessus, je pense à lire l'an 2000, etc. Et puis une flopée d'anthologies qui souvent présentaient un best-of des grandes revues classiques de l'âge d'or américain. Bon, ceux qui ont fait l'effort de découvrir la BD au-delà des 5 dernières années ont tous lu ses meilleures histoires, The Weird Tales, etc., etc., Unknown, etc. Alors, ce garçon qui est couvert de prix et de reconnaissance a aussi fait une œuvre beaucoup moins connue sous un pseudonyme qui est celui de Bruce Wayne, et il a voulu non seulement, je disais tout à l'heure, il a voulu écrire comme les gens qu'il publiait, mais à un moment, il a voulu aussi être graphiste comme eux. Il a fait quelques couvertures d'ouvrages, vous découvrez ça dans l'opuscule que je citais tout à l'heure. Et quand c'était Bruce Wayne, c'était lui. Et dans la revue que j'anime, Papier Nickelé, nous avons un jeu. Il faut deviner des choses très compliquées. Et une fois, nous avons fait un jeu avec, il fallait deviner qui était Bruce Wayne. Et à cette époque-là, personne ne le savait, donc ce jour-là, nous n'avons pas eu à offrir un abonnement gratuit, ce qui était toujours ça de gagner pour la revue. Alors, deux dernières petites choses. La première, c'est qu'à un moment, ça arrive dans la vie, il a pris une retraite des éditions J'ai lu, et à cette occasion, il y a eu une petite fête où on a publié un ouvrage dans lequel il y avait, on va dire, ses expressions favorites, ses bons mots, etc., recueillis par ses collaborateurs et collaboratrices. Le livre s'appelle « Je suis tout ouïe d'un œil distrait ». Je vous le recommande vivement, mais ne le cherchez pas, on ne le trouve pas. Il avait été tiré à très peu d'exemplaires, je crois. Enfin, si vous le trouvez, achetez-le, parce que peut-être quelque part, ce n'est pas la partie la plus inintéressante de son œuvre. J'aurais même tendance personnellement à la placer assez haut. Alors, vous allez me dire, quelques titres. Alors, je vais vous les dire, je les ai relevés dans l'opuscule tout à l'heure parce que je ne les avais pas forcément en tête. Alors, je terminerai par là. Je vous recommande particulièrement dans les genres très différents que j'ai évoqués, Moshe Nira Greenwood, O Enigmo della Zodiaco, La Astrologia Ayer y Hoy, Prabhu Siret Kazei Spencer, Mairela Dekat Barol Bati et Tayu Noshita Sanchita. C'est bien entendu des traductions. Si vous voulez les titres originaux, eh ben, écoutez, allez à son stand, achetez-les et lisez-les avec le même plaisir que moi. Jacques, c'est à toi.
Merci. D'abord, je te remercie, je suis très surpris, je pensais que tu ne parlerais que de toi.
Mais si,
que tu ne dirais pas un seul mot sur moi. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur mon histoire de la SF et les anthologies tout à l'heure, pendant que je dédicassais, donc j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais parler un petit peu, dirons-nous, du chronique. Là, j'ai la totalité de mon discours, et ce n'est pas très long. Vous connaissez, pour la plupart, Le Maître du Château de Philippe Dick. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une uchronie, c'est-à-dire une histoire telle qu'elle ne s'est pas déroulée, dans laquelle les forces de l'Axe, le Japon et l'Allemagne, ont gagné la guerre. Et dans ce monde où l'Amérique est complètement gouvernée par le Japon, au point qu'on consulte Viking pour n'importe quel marché à conclure, on raconte qu'il y a un homme qui vit dans un gros château et qui a écrit un roman de science-fiction où les Alliés auraient gagné la guerre. C'est-à-dire qu'il a imaginé le monde tel que nous le connaissons. Et à la fin, quelqu'un, le personnage du livre, consulte le Yi Qing, le livre des mutations chinois, et la réponse est « c'est vrai ». C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne vivent pas dans le temps principal, mais ils ont dévié du temps principal, et ils sont dans un temps parallèle. Eh bien, j'aimerais me poser la question, est-ce que ce n'est pas notre cas aujourd'hui? Est-ce que nous sommes toujours dans le temps principal? Je ne le pense pas. Je pense que le temps a dévié le 7 juin 2008. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 juin 2008? Eh bien, Madame Hillary Clinton a renoncé à être présidente des États-Unis, du jour où on a refusé de compter les primaires de Michigan, et a cédé la place à M. Obama. Et je persiste à penser que dans le monde principal, dans le flot temporel principal, c'est Mme Clinton qui est aujourd'hui présidente des États-Unis, et que personne n'aurait pu élire un noir en 2008-2009. Je pense aussi que, beaucoup plus récemment, c'est donc là, en décembre 2010, il n'aurait pas pu se produire une révolution qui chasse M. Ben Ali du pouvoir. Je pense que tous les Occidentaux l'auraient soutenu, son ami Ayomari et autres. Je pense que les jeunes Égyptiens n'auraient pas pu chasser M. Moubarak. Je pense que dans le temps principal, Ben Ali est toujours au pouvoir, que Moubarak est toujours au pouvoir, et que notre président, rappelle-moi son nom.
Kadhafi.
Sarkozy. Sarkozy n'aurait pas fait abattre son ami Kadhafi, qu'il venait de recevoir à l'Élysée, il avait laissé monter sa tente, etc. Il n'aurait pas non plus envoyé des troupes pour forcer M. Gbagbo, c'est-à-dire ce Gbagbo, à quitter le pouvoir. Je pense que tous ces événements ne se sont pas produits. De même que imaginer que M. Dominique Strauss-Kahn, un des hommes les plus puissants de la planète, puisse sortir du Sofitel les menottes au poignet, qu'on ait pu l'arrêter comme ça, sans vérification véritable, est totalement invraisemblable. Et je pense que dans le monde réel, il va devenir président de la République en mai prochain. Voilà, j'ai donc tout à fait l'impression que nous avons dévié du temps principal et que maintenant n'importe quoi peut se produire. On peut même avoir un désastre écologique en France, comme par exemple l'élection d'Eva Jobin au président de la République. Tout peut arriver, mais je crains bien que l'Uchronie, ben, nous soyons en train de la vivre, et à mon avis, ça va mal se terminer.
Ça, c'est un discours bref, c'est bien.
Bref. Alors maintenant, on m'a parlé beaucoup, m'ont posé des questions à propos des anthologies, de l'histoire de la science-fiction. Alors là, à la base, il y a eu un homme, George H. Galley, qui était un fan avant-guerre et qui, il devait avoir des, je sais pas, des techniques spéciales pour obtenir tous les magazines qui paraissaient, mais il a eu presque tous les magazines de science-fiction d'avant-guerre, les Pulps. Et un jour, il m'a annoncé qu'il allait quitter Paris pour s'installer à Cassis, ça devait être vers 1965, et qu'il était bien embêté parce qu'il avait une pièce entière de ses Pulps, mais qu'à Cassis, il aurait deux pièces de moins que dans son appartement de Paris. Il m'a dit, je me demande ce que je vais en faire. Et là, au coup d'impromptu, je me suis dit, enfin, engueulé par ma femme. Il m'a dit, je vais gaspiller l'argent du ménage. Je lui ai dit, bon, je vous les rachète. Et j'ai hérité de la collection de Georges Galley, que j'ai complété parce qu'il avait prêté les planètes à un ami, l'ami que je n'avais jamais rendu. Il lui manquait beaucoup de Weird Tales. Donc j'ai complété et j'ai dépouillé et lu ces Pulps, dirons-nous, depuis 1966 jusqu'en 1973. Et en 1973, j'ai convaincu un éditeur de publier un livre sur les illustrations de Pulps. Il s'agissait donc de Hier l'an 2000. Qui ensuite est paru aux États-Unis sous le nom de 2000 AD, puis est paru au Japon sous un autre nom que je ne connais pas.
Je dois l'avoir.
Mais ces illustrations, ce livre a bien marché, et j'en avais parlé à un autre éditeur, le patron d'Albert Michel, M. Esménard, et je lui avais proposé de faire un ouvrage qui, à mon sens, manquait, une histoire de la science-fiction. Parce que ce que j'ai voulu faire, c'est un HTU, pour moi, en anglais. Et je me suis aperçu qu'il n'en existait pas. Or, à partir de toutes ces pulps que j'avais lus et d'autres textes que j'avais lus, l'histoire de la science-fiction américaine apparaissait de façon absolument claire et était tout à fait inconnue en Europe. D'où j'ai travaillé pendant, à marche forcée, parce que, je ne sais pourquoi, on m'a assigné le délai de 3 mois. Ce qui, pour un ouvrage très gros, fait que j'ai été obligé de la dicter, et non pas de l'écrire sur une machine à écrire. C'était une question de date de parution. Cette histoire de la science-fiction moderne, que j'ai fait démarrer à Wells et Jules Verne, jusque donc à l'année 73, a eu un certain succès, reparu ensuite dans la collection Ailleurs et Demain en 1984. Gérard Klein m'a proposé de leur faire une autre en 2000, mais là je l'avais laissé tomber. Et si on compare l'édition de 1973 à celle de 1984, on va voir qu'en note de l'édition de 1973 était cité un grand nombre de textes issus des magazines américains, de Weird Tales, de Astounding et autres. Et dans celle de 1984, on va voir qu'ils sont traduits. En fait, la série d'anthologie Les meilleurs récits 2 provient à la fois des nouvelles lues pour Hier l'an 2000 et pour l'histoire de la SF. Et c'est même au point que pour ce qui est des cinq titres, les deux Weird Tales, Astounding Amazing et Famous Fantastic Mystery, un peu à part, le choix des nouvelles a dû me prendre à peu près un quart d'heure pour chacun, parce que j'ai simplement eu à recopier ce que j'avais écrit dans l'histoire de la SF. Et Famous Fantastic Mystery est paru plus tard, mais il n'y avait que 4 nouvelles. Donc là aussi, elles ont été choisies immédiatement. Et à ce moment-là, je n'en ai parlé à personne. et j'ai fait acheter les droits en disant aux agents, c'est pour une anthologie, sans préciser plus. Parce que, bien évidemment, si j'avais révélé ce projet, certains confrères, naturellement j'ai la plus grande confiance dans mes confrères, mais enfin, c'est-à-dire aucune, auraient pu faire ça dans les collections de poche, pas l'édition chère, mais dans les collections de poche. D'où, pour ces 5 titres, ça a été le blackout. Puis à partir du 6e, là, enfin, une fois les titres achetés, du coup, les 5 premiers, je m'en suis ouvert un peu à tout le monde. Et là est intervenu quelqu'un d'autre, qui lui aussi aimait la science-fiction depuis avant-guerre, c'était Jacques Berger. Et quand je lui ai parlé de ça, Berger m'a dit, mais les autres magazines, vous les connaissez aussi bien que Weird Tales ou Stanley? Bah, j'ai dit non, mais il y en a certains que je connais assez peu. Il m'a dit, mais je peux vous aider, parce que moi, je les ai tous lus. Et je lui ai dit, vous vous souvenez de tout? Il m'a dit non, mais si je revoyais les magazines, ça me rappellerait quelque chose. Et à partir de ce moment-là, Berger est venu chez moi une fois par mois avec une mallette. Et il remplissait sa mallette de tous les magazines d'un titre. Par exemple, il importait tout Planète. Et je les avais presque tous, mais parfois il m'en manquait deux ou trois. Et généralement, il me les rapportait, mais avec deux ou trois en plus. D'habitude, les gens, ils en piquent. Non, lui, il en donnait deux ou trois en plus. Et il cochait les nouvelles qui lui paraissaient intéressantes. Alors je lui ai demandé s'il voulait co-signer les anthologies avec moi, à partir de la 5e. Il m'a dit non, non, pas du tout. Je veux ça, vous lisez ce que j'ai coché, et si ça vous plaît, vous le mettez dedans, parce que moi je suis un aveugle du style, c'est uniquement l'idée qui me plaît. Donc, Berger a commencé à être influent à partir de Unknown, juste à la dernière, ou la dernière qui lui est dédiée, parce qu'il venait de mourir. Alors, si on me demande quelle est la part de Berger, ben, ça dépend. Si c'est Unknown qu'il en ait choisi 2 sur 10, je dirais 20%. Et si c'est la toute dernière Fantastic Mysteries, où j'en connaissais très peu, je pense que c'est 90%, ont été faits dans le choix de Berger. Mais il n'a jamais voulu laisser paraître son nom. Voilà l'histoire de ces anthologies. Beaucoup de gens m'ont souvent demandé. Qui sont en fait le sous-produit des 2 précédents livres.
Très bien.
J'ai un commentaire à faire.
Aucun, je les ai lus avec beaucoup d'intérêt à l'époque. Moi, je n'avais rien et je ne connaissais rien. Donc, ça a beaucoup formé mon maigre savoir en matière d'histoire de science-fiction.
Parce que le nombre de personnes qui m'ont fait signer des livres en me disant qu'ils avaient débuté et ils avaient commencé à aimer la science-fiction à partir de ces anthologies. Alors, ces anthologies ont eu un prolongement aux États-Unis. Un an après, donc c'était les 2 premiers sont en 1973, en 1974, et en 1975, j'ai reçu Science Fiction of the 30s, Science Fiction des années 30, par Damon Knight, une anthologie faite aussi à partir des vieilles revues. Alors, mon premier, quand j'ai vu, il y avait un gros bouquin épais cartonné, je me suis dit, mais ça n'a pas d'intérêt, puisque je l'ai fait, je vais le retourner. Puis je l'ouvre, et qu'est-ce que je vois? Imprimé. Mais imprimé, pas à la main, imprimé sur la page de garde, tout Jacques Sadoul. Alors j'ai téléphoné à l'agent, et je lui ai dit, bon, mais je ne ferai pas ce livre, mais je ne peux pas vous le rendre. Comment? Dit l'agent, mais il n'en est pas question, je n'ai que 2 exemplaires. J'ai dit, prenez l'autre. Elle prend l'autre, j'ai dit, ouvrez-le. Elle l'ouvre, elle dit, ah bon, je comprends, alors gardez-le. Parce qu'il ne me l'a jamais envoyé, il ne m'a jamais signalé, et dans la préface, il explique longuement que c'est à la lecture, parce qu'il lisait le français, il ne parlait pas, mais il le lisait, à la lecture des 2 premières magazines, dont les seuls qui étaient parus, sont là, Standing et Amazing, qu'il avait eu l'idée de relire des vieilles nouvelles, qu'il croyait être devenu tout illisible, et qu'en fait, il avait trouvé de l'intérêt. Mais jamais il s'allait manifester. Puis après, je le connaissais pourtant, personnellement. Un homme tout à fait charmant, une histoire un peu étrange. Et ce qui est aussi étrange, c'est que, donc, il connaissait le sommaire des 2 premières nouvelles, des 2 premiers recueils, mais il y a eu 13 recueils. Et si je prends son livre, il n'y a aucune nouvelle commune avec aucun de mes recueils. Voilà. Ça a été le prolongement inattendu.
Ils sont disponibles encore, ces anthologies? Ils ont été réimprimées?
Non, plus rien n'est disponible. Et comme les droits ont été perdus, j'ai lu, ne pourrait pas les rééditer.
Oui, il faudrait racheter.
Bien entendu. Et puis, de toute façon, il y a eu une période où ça a été vraiment un très grand engouement. C'est la même chose que pour l'hiver. Et puis, les ventes ont baissé. Je sais par cœur la vente du premier, c'est la Stanley. 90 000 exemplaires ont été vendus. ce qui est tout à fait considérable. Et le dernier, ben, c'était moins de 30 000.
Alors, ce qui serait encore considérable aujourd'hui.
J'avais annoncé que je ferais ensuite une anthologie, c'est écrit dans le texte de présentation de la dernière anthologie, qu'il y aurait encore une anthologie de galaxies et une de fantasy and science fiction, de la fiction en français. Et puis je n'ai pas pu parce que les droits étaient complètement bloqués par la maison Opta.
Ah oui.
De même que dans Unknown, je voulais faire Snellbug, et très bonne nouvelle d'Anthony Boucher, ça se prononce pas comme ça en anglais, Anthony Boucher, sur un démon malchanceux, mais Boucher, qui était devenu rédacteur en chef de l'édition américaine de fiction, ben, il avait récupéré sa nouvelle pour la republier dans le magazine Fantasy Science Fiction. Lorsque j'ai donné le droit, on m'a dit non, non, ça c'est bloqué, c'est réservé à l'édition française. D'où les deux dernières annoncées ne sont jamais parues. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions qu'il souhaite soulever ?
À défaut de les soulever, vous pouvez les poser.
S'il vous plaît.
Oui.
Et rétrospectivement, quel regard vous jetez aujourd'hui sur l'univers ? Parce que moi, j'ai découvert la science-fiction avec Univers, par Huxley et Orwell. Et ça m'a complètement fasciné d'entrée, et en fait, j'en suis jamais sorti, je crois. Et c'est un peu pour ça que je suis venu aujourd'hui, d'ailleurs, à cause de l'univers. Alors, à cause de l'univers, des gens que ça réunissait, dont Frémur, que je connaissais, je crois que c'était dans Fuite glaciale déjà. Donc, c'était des gens un peu qui venaient d'univers justement différents, qui fabriquaient un objet très bizarre, presque entre le poétique et la science-fiction. C'est quelque chose qui, à la limite, n'a pas encore trouvé sa vraie place, je pense, dans l'histoire littéraire. Vous avez quel regard sur
ça ? Alors, Univers, d'abord, il est paru, c'était tous les 4 mois, je crois.
Ah oui, c'était un trimestriel.
Ce qu'on appelait un volume 5. Donc, avec un petit nombre de pages. Puis, les ventes ayant baissé, c'était 19 000 à la fin. 19 000,
ah oui.
Alors que la première c'était 50 000. Les ventes ayant baissé, il est devenu annuel. Alors, à ce qui me semble, personnellement, j'ai dirigé le premier numéro. C'est au cours de cela que j'ai demandé à Frémion ensuite de prendre la suite, et je n'ai vraiment agi que sur le premier numéro. Puis, les 3 premiers annuels. Ensuite, d'autres ont été faits par Joël Van Trevert et encore une autre personne. Là aussi, ça a fini par baisser, alors qu'un annuel, il est bien remonté. L'idée que j'avais lorsque j'ai lancé ça, c'était que les vieux auteurs, ils devenaient vieux. Et donc, qu'il convenait de présenter les jeunes auteurs pour ensuite pouvoir qu'ils remplacent Heinlein, Van de Vogt, Asimov ou des gens comme ça. Cette idée n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que ce ne sont pas les auteurs, finalement, publiés en hiver, qui sont devenus, à part quelques exceptions,
quand même,
qui sont devenus les locomotives de la suite. Et toi, tu peux dire des choses.
Oui, dans l'hiver, on avait essayé, puisqu'on avait discuté avec Jacques, et on n'a vraiment pas la même culture, on n'avait pas les mêmes goûts, on n'avait même pas les mêmes idées sur la SF. C'est pour ça que c'était bien, parce que le mélange des deux si on arrivait à faire l'articulation, ça pouvait être intéressant. En tout cas, on a essayé, je ne sais pas si on a réussi, mais dans les premiers numéros, il y a pas mal de textes très anciens. Notamment, par exemple, quelque chose moi, qui m'avait bien amusé, c'est lui qui avait trouvé ça, évidemment, des Round Robin, c'est-à-dire des textes écrits à 4 ou 5 auteurs qui se relaient, etc. Bon, c'est pas d'un grand intérêt littéraire, mais c'est amusant de voir des grands noms de la SF essayer d'écrire ensemble. Il y avait aussi des auteurs très très classiques qui fonctionnaient bien, mais cela dit, c'était l'époque quand même où il y avait beaucoup d'éditeurs de SF, et la plupart du matériel de ces auteurs était vraiment déjà pas mal piqué par les différents éditeurs. Il n'y avait pas grand chose qui était accessible. Par contre, au même moment, il y avait la nouvelle vague. La nouvelle vague qui était venue de New Worlds en Angleterre et des nouveaux supports américains, des nouveaux éditeurs, puis cette flopée de nouveaux auteurs qui arrivaient. dont certains étaient tout à fait extraordinaires. Je pense à Lafferty, à James Tiptree, qui étaient d'ailleurs des gens pas si jeunes que ça.
Non.
Mais sauf que nous, on les découvrait. On n'avait pas entendu parler d'eux jusque-là. Et puis, il y avait toute la vague anglaise autour de Ballard, plus tard Christopher Priest, Ian Watson, des gens comme ça. Bon, c'était formidable parce que ces gens-là, ils n'étaient pas encore trop publiés, donc on pouvait aller grappiller. Mais moi, je me suis beaucoup amusé à essayer de sortir tous ces gens-là et à publier des textes qui sont aujourd'hui des grands classiques que personne n'avait encore publié. L'ultime plage de James Ballard, par exemple, des choses comme ça. C'était formidable, je suis tombé sur un texte comme ça, je disais, putain, personne ne l'a publié, waouh, je sautais dessus. Et donc, on a pu faire une revue comme ça où il y avait à la fois des textes qui pouvaient plaire aux jeunes qui débutaient, qui voulaient les textes les plus neufs, presque à la limite du punk et tout ça, on les avait. Et puis en même temps, l'auteur classique, enfin le lecteur classique qui aimait les bon, il pouvait trouver des machins. Et sauf que c'était pas très gros univers, et que donc je pense que si ça avait été un volume double, par exemple, peut-être on aurait plus pu montrer ça. Mais moi, je suis extrêmement fier d'avoir fait ça. C'est vraiment, ça a été un beau moment de ma vie. D'abord, j'ai jamais autant lu en anglais qu'à cette époque-là. Je suis pas sûr que je serais capable de le faire encore aujourd'hui. Mais et puis, on trouvait des trucs dans des revues qui n'étaient même pas des revues de science-fiction. Des fois, dans des revues de rock, si la science-fiction, elle était partout. Puis tout le monde voulait en lire. Donc, c'était formidable. On pouvait proposer n'importe quoi au public. Il y avait toujours quelqu'un qui aimait ça. Quand on a sorti, c'est toi qui avais amené ça, la nouvelle la plus courte du monde, qui est celle de Forrest J. Ackerman, qui est d'une seule lettre. Bon, c'était un gag, c'est amusant, mais on pouvait faire ça, quoi. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si on faisait une revue et qu'on fasse ce genre de blague, on soit tellement suivi par le public. Enfin, peut-être que ça reviendra.
Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est les auteurs qui étaient tout à fait intéressants finalement ont été supplantés par des auteurs de fantasy.
Et ça, c'est après, parce que c'est le cinéma qui a amené ça.
Oui. Finalement, au bout d'un certain temps, il est paru à peu près 9 livres de fantasy pour une science-fiction aux États-Unis. Et ça a complètement bouleversé les rapports.
Ouais. Mais il y a eu deux choses. Il y a eu l'arrivée du cinéma de science-fiction, qui a remis en selle ce qui avait été un peu bousculé par la jeune génération qui disait « Oh, maintenant, on en a marre des histoires d'astronefs, de planètes, de machin, la science-fiction pour nous, c'est autre chose, c'est parler d'un peu de tout. » Puis, bang, le cinéma arrive là-dessus, il nous refait du space opera, évidemment, parce que bon, space opera au cinéma, c'est quand même autre chose qu'en littérature. Et de ce coup, tu as remis ça dans le goût du jour. Et puis, à ce moment-là, la bande dessinée s'est mise à s'emparer de l'heroic fantasy. Et là aussi, c'est pareil, l'heroic fantasy dessinée, c'est quand même autre chose que quand on l'a décrit, c'est beaucoup plus séduisant, et ça a bouffé le marché. Et ça a tué la science-fiction stricto sensu. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette période de creux de vague, qui fait aussi qu'un certain nombre d'écrivains professionnels, c'était mon cas hein, d'ailleurs, à un moment, ben, on n'avait plus de support, enfin plus de support, on était rémunérés, on pouvait gagner notre vie, on est parti écrire des livres ailleurs, quoi. Moi, je n'ai pas arrêté d'écrire de la science-fiction parce que tout à coup, ça ne m'a plus plu. C'est d'un seul coup, ben, voilà, il n'y a plus d'éditeur, il n'y a plus rien. Je me suis mis à écrire d'autres livres parce que j'avais d'autres compétences ou d'autres envies. Et beaucoup de gens ont fait comme ça, donc plein sont partis vers le polar, parce qu'à ce moment-là, le polar a eu... Ça a été l'époque du nouveau polar français avec Manchette et tout ça. Et puis d'autres sont partis vers la littérature jeunesse, d'autres sont partis écrire du roman paysan, comme Michel Jury, des gens comme ça. Voilà, tout le monde s'est adapté à la réalité.
Aux États-Unis, à l'heure actuelle, un auteur connu qui écrit un Star Trek par an peut vivre toute l'année. Il suffit d'écrire un Star Trek, ce qui est quand même assez ahurissant. Et la fantasy a débuté, dirons-nous, avant la science-fiction.
Oui.
Dans les années 18-20, avec des auteurs de qualité comme Abraham Merritt, comme par exemple, et aussi Edgar Rice Burroughs, l'auteur de Tarzan, mais avec tout son cycle de Mars, cycle qui est encore édité aux États-Unis, ce qui fait qu'il existe encore une influence aujourd'hui sur les jeunes auteurs. Après Merritt, bien sûr, est apparu Lovecraft, Catherine Moore, mais
Robert Howard.
Ah oui, Robert Howard. Alors Howard, avec son Conan le Cimérien, les Français l'ont aussitôt classé comme d'extrême droite, alors que Howard était un type qui, pour les États-Unis, était de gauche. et
oui, c'est bien la même chose.
Et qui et qui expliquait à Lovecraft que ben ce qui se passait en Allemagne, je parle des années, donc il est pas 37, donc ce qui se passait à partir de 34-35 n'était pas bien, parce que Lovecraft, lui, était fasciné par le national-socialisme. Et il est même allé jusqu'à écrire à propos d'Hitler « I love the boy », « J'aime ce garçon ». Et Robert Howard lui disait « Mais non, c'est pas ça du tout, c'est des salauds, faut pas être comme ça ». D'ailleurs, je crois qu'à la fin, il était arrivé à convaincre Lovecraft qui finissait à la fin par se déclarer socialiste, ce qui n'est pas très bien ce que ça signifiait dans ce cas-là. Mais en fait, c'était trois amis, ils ne se sont jamais rencontrés. Il y avait Lovecraft, qu'on appelait H.P.L. Il y avait Clark Ashton, c'était Clark Ashton Smith, alors Lovecraft vivait du côté de Providence, Clark Ashton en Californie, et le troisième, c'était Robert Howard, baptisé Tugan Bob, parce qu'il portait toujours deux revolvers sur lui. Mais il n'a battu personne. Mais il s'en est quand même servi pour se suicider quand sa mère est morte. Et ces trois-là ont eu une amitié par correspondance, et c'est seulement Hoffman Price qui a eu l'argent nécessaire pour faire le tour des États-Unis et les a rencontrés tous les trois. Et je crois qu'il n'y a qu'Hoffman Price qui les a rencontrés. Hoffman Price est un auteur qui écrivait à la fois de la fantasy, mais aussi des policiers, et aussi il écrivait dans les spicy pulps, les pulps épicés, c'est-à-dire cochons. Oui.
Que vous lisez, vous vous tenez toujours au courant de ce qui se passe en science-fiction, ou sur ce que vous et quel est votre avis sur justement l'état de SF aujourd'hui?
Non, alors là, je vais faire l'aveu. Lorsque j'ai quitté, j'ai resté 30 ans et 8 mois aux éditions Gélu, je suis parti en janvier 99, et j'ai fait une immense pause de science-fiction, donc il m'arrive d'en lire un de par an ou trois, et j'ai surtout lu des livres d'histoire. Et par exemple, les derniers livres que j'ai écrits, le miroir de Résilla est fondé sur un personnage historique, de l'histoire romaine, Drusilla, la sœur de Caius Galligula, dont je raconte un chapitre sur deux, son histoire telle qu'elle s'est déroulée dans la Rome à son époque, c'est-à-dire dans les années 25-38, et l'autre chapitre, l'histoire de la même Drusilla, telle qu'elle se déroule aujourd'hui en Californie. C'est un exemple de roman fantastique. Quant au tout dernier qui sort en ce moment, à savoir
le titre roumain.
Non, pas le titre roumain, on va faire le titre français, le Jaguar Rouge, qui raconte l'histoire de la conquête du Mexique par Hernán Cortés. On a aussi un chapitre sur deux, l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée. L'autre chapitre, l'histoire vue du côté des Indiens, mais à travers l'esprit d'un Indien qui est occupé par un homme d'aujourd'hui, qui assiste à ce massacre, qui connaît l'issue et l'acculturation et l'anéantissement de tout le peuple mexicain, et qui ne peut rien faire, et qui se demande comment l'empêcher. Voilà. Dans tout ça, j'ai lu beaucoup de livres d'histoire, en anglais, en français, en espagnol, pas en anglais, pas en allemand malheureusement, et j'ai lu assez peu de livres de science-fiction, je le reconnais. Et surtout, je trouve que j'avais l'impression que chaque fois que j'en recevais, c'était de la fantaisie. Oui.
Je vous demandais, quand vous avez introduit la science-fiction chez GLU, est-ce que vos patrons avaient imposé certaines conditions, par exemple tirage minimum, type de couverture?
Non. Non. Je suis entré à GLU en mai 68, je crois, juste avant la Révolution. Prima della Rivoluzione, il s'appelle comme ça. Et évidemment, j'ai tout de suite demandé à introduire la science-fiction, et on m'a dit non. C'est invendable. Tout le monde sait que la science-fiction, ça ne se vend pas.
C'est pour ça qu'on a fait la révolution immédiatement après.
Et je me suis aperçu que les éditions Didis, Frédéric Didis était le patron de GLU, le fondateur de GLU, et avant il avait une maison qui s'appelait Didis, publiait des romans policiers, un jour avait publié 6 livres de science-fiction. Et j'ai demandé, est-ce que vous pouvez me retrouver les chiffres de vente? On m'a retrouvé les chiffres de vente, je suis allé voir Didis, je lui ai dit, vous savez les 6 livres de science-fiction? Il m'a dit, je suppose qu'on n'en a pas vendu un seul. Et j'ai dit, regardez les chiffres de vente, ils sont exactement identiques aux chiffres de romans policiers que vous avez publiés le même mois. Je veux dire que ça, ça l'a quand même étonné. Et du coup, un jour, il a déjeuné avec Robert Laffont, et autour du déjeuner, il m'a jeté un livre sur le bureau, c'était Le demi-heure et c'est de l'espace de Arthur Clarke. Il m'a dit, tenez, je vous ai acheté un livre de science-fiction. Et il dit, bon, très bien. J'ai dit, un livre, il en faudrait plus. Il m'a dit, bon, écoutez, ça fait 2 ans que vous me cassez les pieds sur la science-fiction. Allez, achetez-en 4 autres. Qu'il y en ait 50. J'ai dit, bon, mais quoi, des livres acceptables? Et j'ai dit, non, aucun livre de science-fiction n'est acceptable pour les sciences. Bon. Alors j'ai acheté Demain les chiens de Simac, Le Mondial de Van Vogt, les deux Sturgeon, Les plus qu'humains et Les gens qui songent, et ben, on a commencé par le Clark. Et le résultat a été très moyen. Ensuite on a fait un Sturgeon, c'était avant les vacances, et le résultat a été très moyen. Et alors il m'a dit, voyez, bon, une fois qu'on aura les faits, les 5, on arrête, ça fait un peu d'argent perdu, tant pis. Et puis en septembre, on a lancé Le Monde des Nonas de Van Vogt. Et alors là, les ventes ont été immédiates et torrentielles. Il y avait une librairie sur le boulevard Saint-Michel, et qui était une librairie d'un type intellectuel et qui refusait de vendre J. Et ils ont commandé, notre diffuseur Flammarion, 500 exemplaires du Monde des Nonas. Au point que les Flammarion ont téléphoné, ils ont dit, je pense que vous avez mis un zéro de trop, là, il y a erreur. Et ils ont dit, non, non, on en veut bien 500. Et un mois plus tard, ils ont recommandé 150 de plus. Et on s'est aperçu que, alors là, on a commencé à se poser des questions, on s'est aperçu que le Rayon Fantastique, qui a été publié chez Hachette, et chez Gallimard, et chez Hachette c'était fait par M. Georges Gallet dont je parlais précédemment, et avait laissé des souvenirs chez un tas de jeunes gens qui étaient devenus des trentenaires et qui recherchaient ces livres qu'ils avaient lus et qui, dès qu'ils ont su que le Van Vogt était paru, mais ça a été, je vous dis, vraiment torrentiel. Du coup, M. Dittis m'a dit, bah, écoutez, là, il y a quand même un phénomène bizarre. D'abord, commencer par acheter d'autres livres de cet auteur, puisqu'il a l'air de se vendre. C'était logique. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui, à votre avis, pourraient se vendre comme ça? Ben, j'ai dit oui, il y a Isaac Asimov. Je ne connais pas, mais allez, achetez-en. Et il m'a autorisé à l'acheter, je crois, 8 pour l'année suivante. Et voilà comment ça... Mais alors, pour la couverture, on a dit, mais surtout, il ne faut pas dire aux clients... que c'est la science-fiction, parce qu'ils vont les refuser. Donc, on les a publiés sous des couvertures parfaitement neutres, de littérature générale, et sans dire que c'était de la science-fiction. Et puis, au bout d'un certain temps, les libraires ont fini par s'en apercevoir. Il y en a un qui a dit à Dittis, je ne veux pas de vos science-fiction, il y a des gamins qui viennent là-dedans, et moi, je ne veux pas de ça, je veux des bons auteurs, malégoristes, Perfit, Van Vogt, Vialar. C'est exactement la phrase qui a été prononcée. Et puis, quand on est allé au Canada, Vitis Toulouse est allé au Canada, il y avait notre diffuseur, il lui a montré Des fleurs pour Algernon, de Daniel Case, et il lui a dit, ah, vraiment un bon bouquin. Et Vitis, oui, c'est un de nos meilleures science-fiction. Il a dit, mais non, monsieur Vitis, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un bon livre. Bon, ça a quand même duré comme ça jusqu'en... Donc, c'est les conventions 70, jusqu'à pendant 3 ans. Puis au bout de 3 ans, on avait quand même créé un noyau, et les libraires finissaient par savoir cette information, mais les jeunes gens venaient et retenaient d'un mois sur l'autre les 2 livres à paraître, parce qu'à ce moment-là, on était passé à 2 par mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les anthologies, les meilleurs récits. J'ai dit, maintenant, apparemment, ils savent que c'est la science-fiction, donc osons et mettons des couvertures de science-fiction. Et c'est là qu'on a commencé à engager Tibor Xernus, Sulmac, avant, il travaillait pour nous avant d'aller à Pocket. Voilà comment ça s'est fait. En se glissant dans une fente du système.
Est-ce que le fait que le traducteur était bon récipient, est-ce que ça a pu jouer?
C'est une question bien difficile à répondre. Vian, de son temps, n'avait aucune notoriété. C'était seulement bien après sa mort. Et d'ailleurs, s'il avait traduit Van Vogt, c'était un travail alimentaire. Il y a même le premier biographe de Boris Vian, je me souviens, a écrit, il a aussi fait des traductions, dont deux mères de science-fiction d'un certain Van Vogt. La version que j'ai publiée, c'est une version où j'ai enlevé trois contre-sens, pas plus que ça, mais c'était vraiment du contre-sens d'inattention, c'est-à-dire il sortit d'une pièce au lieu d'il entra dans la pièce, vous voyez. C'était à ce niveau-là, parce que ça avait été traduit trop vite, en branche avec une nouvelle préface, etc., de Van Vogt, mais je crois que ça n'a pas joué. En tout cas, pas sur les lecteurs, peut-être quelques... Et comme les critiques n'en parlaient pas, mais lui aimait ça. Et mon histoire de la science-fiction a été traduite en japonais, et un jour j'ai reçu un exemplaire japonais, et puis un jour j'ai fait des mangas, et il y a une jeune japonaise qui est venue. Et je lui ai dit, oh, mais regardez. Alors je lui ai montré mes livres japonais, et j'avais trois livres traduits en japonais, dont j'ai l'auteur. Et je lui ai demandé de me traduire le texte qu'il y avait sur la jaquette, le raban. Et là, j'ai appris avec stupeur que la science-fiction avait débuté par des rencontres tenues dans la librairie La Balance entre Boris Vian, Jacques Guamard et moi. Or, je n'ai jamais rencontré Vian, Guamard non plus. Et nous ne sommes ni Guamard ni moi allés à La Balance. Et en fait, ça s'est passé dans notre librairie tenue par l'ex-maîtresse de Vian, bon, c'est le seul lien, l'atome. Et Guamard n'est arrivé que plusieurs années plus tard. Voilà comment on écrit l'histoire.
C'est de la science-fiction.
Puis le traducteur, il aurait pu m'écrire pour me demander. Il arrive que le traducteur écrive à demande à l'auteur pour lui demander des précisions, mais rien. De toute façon, évidemment, il pensait bien que je ne pouvais pas comprendre ce qu'il avait écrit.
Savez-vous pourquoi actuellement encore des ouvrages qui ressortissent normalement à la science-fiction sont publiés en littérature générale? Je pense à La Route, par exemple, de Norman McCarthy.
Ça dépend des collections. Vous avez des... chez qui il est paru, là, en ce moment? Parce que... si vous n'avez pas une... Par exemple, James Cain, un policier. James Cain n'est jamais paru dans des collections policières. Alors que c'est aux États-Unis, il paraissait à côté d'Achille Hammett, de Jonathan Latimer, et tout ça, c'était considéré exactement comme la littérature du même ordre. Mais comme il était paru chez Gallimard, c'était considéré comme de la vraie littérature par rapport au polar. D'où le James Cain a toujours été à part. Bon, là, il est probablement paru chez un éditeur qui n'avait pas de série science-fiction et qui donc le considérait comme au-dessus du livre. Parce que les préjugés continuent.
J'ai une autre idée sur le succès de Van Vogt. Est-ce que ça serait lié au fait qu'il y avait la revue Planète et que la logique sémantique du corps subsiste, ça pesait beaucoup?
C'est très possible. C'est très possible. Planète, à travers Berger et Powès, avait parlé de Korzybski, de sémantique générale, mais bon, Van Vogt n'avait juste pris que quelques formules, c'est tout, rien d'autre. Mais alors, il était devenu ensuite chairman de Dianétique, mais il en Californie, mais il est de Ron Hubbard. Mais il n'était pas allé jusqu'à suivre John Hubbard, jusqu'à la scientologie. Là, il s'était arrêté, mais la dianétique, et une fois, il avait animé un débat qui opposait un philosophe korzybskien, non aristotélicien, à un qui pratiquait la sémantique générale et autre, je ne sais plus quelle philosophie, et il m'a écrit en disant, le plus ennuyeux, c'est que c'est le type qui pratiquait la sémantique générale, qui a été l'applaudimètre le plus applaudi. Et là, il croyait plus du tout. Mais il s'entichait beaucoup de collections. Par exemple, il y avait une très mauvaise vue, il y avait une méthode d'un certain Bates, et il prétendait qu'il enlevait ses lunettes, et il voyait mieux avec cette méthode Bates, alors qu'en fait, il ne voyait pas. Mais les auteurs de science-fiction sont parfois un peu étranges. Le plus étrange de tous étant Philip Dick, bien sûr. Certains n'étaient pas. Robert Heinlein était un bourgeois, très classique, très normal. Il n'y avait rien de spécial. Simac, c'était un monsieur Charbon qui était journaliste. Mais il écrivait ses romans de science-fiction, ses nouvelles, par délassement, en plus de son travail de journaliste. Ce n'était pas son activité principale, alors que d'autres, c'était vraiment leur gagne-pain. Et Philip Dick, lui, un jour, il m'indique que les extraterrestres plaçaient ses doigts sur les touches de la machine à écrire à sa place. Et qu'il ne faisait que les suivre.
Il me semble qu'il pense à vivre aussi dans deux univers parallèles, le nôtre, puis un autre.
Tout dépend de ce qu'il avait pris comme substance. Mais il était quand même très étonnant, parce que un jour, il a été interviewé par une journaliste française, et quand elle est revenue, elle m'a dit, il m'a demandé un mariage. J'ai dit, quoi ? Alors, Dick a été marié plusieurs fois. Et il ne concevait le mariage que dans la procréation d'un enfant, qui était la concrétisation du mariage. Mais il ne pouvait pas supporter les enfants. Donc, au bout de peu de temps, il mettait la mère et l'enfant à la porte. Il divorçait, et puis après, ça recommençait. Et alors là, cette fille va l'interviewer, le rencontre dans sa maison de la Californie, je ne sais plus où. Et il donne le mariage. Et j'ai dit à la fille, ne racontez pas d'histoire. Je ne crois pas un mot de cette histoire. Et elle a eu l'indiscrétion de m'apporter une lettre de Dick à elle, qui commençait par la phrase « Depuis que je vous connais, tout est plus beau, tout est plus pur ». Enfin, une lettre d'un gamin de 15 ans, écrit à une fille du même âge. C'est quand même assez spécial. Mais Théodore Sturgeon était également assez allumé. Et pour faire signer un contrat à Sturgeon, c'était très difficile. L'agent disait « He's wandering about somewhere along the coast ». Il est en balade quelque part, quelque peu le long de la côte, et on ne sait pas le faire pour lui faire signer. J'ai déjeuné une fois avec lui, il avait une espèce de croix, et il était un peu gothique, quoi. Mais la plupart des autres, c'était des gens très normaux.
Oui. Les auteurs que vous avez publiés s'intéressaient-ils aux auteurs américains que vous citez, s'intéressaient-ils à leurs éditions françaises, à vos éditions, et s'intéressaient-ils notamment à la traduction qui était...
Alors oui, pour la première question, non pour la seconde. Oui, ils s'intéressaient aux éditions françaises. D'abord parce que ça pouvait leur apporter quand même pas mal d'argent. J'ai lu, quand j'ai quitté, on avait vendu 4,5 millions de livres de Van Vogt. Ce qui est quand même considérable. Et donc, on avait quand même payé des droits réels. Également, d'un point de vue esthétique, par exemple, j'avais publié Les Rois des Étoiles au CLA, quand j'étais chez Opta, au CLA. Et la suite et fin de ce roman n'avait jamais été terminée par Edmond Hamilton. Il avait écrit deux nouvelles, puisque on écrivait à ce moment-là, c'était le système d'écrire des nouvelles qui ensuite en rejoignaient, se rejoignaient, complétaient, formaient un roman. Donc il a manqué la moitié. Et je lui ai envoyé un livre de Catherine Moore, que j'avais publié au CLA, en lui disant si vous le terminez, vous aurez la même édition. Il m'a répondu, mais j'ai jamais vu un livre de science-fiction aussi bien publié. C'était relié avec la toile, une jaquette rhodoïde, tout ça, des beaux papiers. Il m'a dit, je le termine et je vous envoie le manuscrit. Il dit, d'accord, pour la photo, je serai moins beau que Catherine, mais sinon, le livre sera aussi bien. Et il l'a fait. Et les textes ne sont pas aux États-Unis qu'un an plus tard, après l'édition française. Donc, ça les intéressait. Et l'auteur de policiers comme Hillary Queen aussi. Alors, Hillary Queen, je ne sais pas si vous le connaissez, mais aux États-Unis, c'était quand même l'auteur d'un roman policier essentiel. Il a utilisé comme nègre des gens qu'on considère comme des grands auteurs de science-fiction, comme Jack Vance, Warren Harrison. Après, ils l'ont nié, mais ce n'est pas moins vrai. Parce que Henry Quinn, ils étaient deux cousins, Manfredi et Freddy Lamy, et l'un d'eux écrivait. C'était celui qui s'appelait Manfredi. Et Frédéric Danet dirigeait la revue, les anthologies. Puis tous les deux concevaient l'intrigue ensemble, mais c'était Lee qui écrivait. D'ailleurs, lui signait Henry Quinn. Une lettre de lui, il signait Henry Quinn, tandis que Fred Danet, il signait Fred Danet. Et c'était deux cousins du Bronx. En fait, ces noms-là étaient des pseudonymes. Il ne s'appelait pas Manfred Lee, il s'appelait Manford Lepofsky. Et l'autre, quelque chose, Nathan, je ne sais plus quoi. Alors, ils avaient estimé que leur nom faisait trop juif et que par conséquent, ça pourrait les desservir. Donc, ils avaient pris un premier, d'abord des pseudonymes pour eux-mêmes, puis un pseudonyme général, et il y avait et un second, Barnaby Ross. Et après, ils faisaient des tournées aux États-Unis, des conférences, et Barnaby Ross, joué par l'un d'eux, mettait au défi Henry Quinn de résoudre une énigme qu'ils avaient évidemment bien arrangée ensemble. Et ça a duré pendant 3 ou 4 ans, cette supercherie. Mais c'était des auteurs très, très considérables par rapport aux auteurs de SF. Voilà ce que je peux vous répondre. Oui.
Par rapport à votre livre, c'est dans la poche. Par rapport à votre parcours, je l'avais trouvé moi un petit peu maigrichon au niveau de ce que vous racontiez. Il n'y a pas une suite éventuelle de prévue?
Non. Moi, j'estime à l'avoir trop dit. Ah. Mais effectivement, c'est un reproche qu'on m'a souvent fait. Mais j'ai voulu qu'il y ait le moins d'anecdotes possible si elles n'étaient pas signifiantes. Parce que, par exemple, les acteurs qui font des livres, on dit c'est bourré d'anecdotes. Et ces anecdotes, bon, c'est drôle sur le champ, mais c'est tout. Il y a vraiment d'anecdotes que pour Barbara Cartland, qui jouait la grande dame, qui disait qu'elle était la seule femme chez elle, et la secrétaire et la femme de chambre, donc c'était des hits, des saints. Bon, ça c'est quand même assez étonnant, mais j'ai voulu éviter les anecdotes, et bon, je pense que j'en ai déjà dit suffisamment. Il y a d'ailleurs une private joke sur ma vie familiale. J'ai dit que j'ai épousé une jeune fille, Josette, qui est là, et que j'ai une fille, Barbara. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai dit « Mais je me suis déjà trop livré. » Point. Eh bien, c'est une citation du jeu de la vérité du chanteur, vous savez, qui a brûlé les billets de 1000 francs, comment il s'appelle ?
Gainsbourg.
C'est lui qui, dans cette émission, n'avait pas dit un seul mot, et à la fin, on lui demande, enfin, répond, il dit, mais j'ai déjà trop livré, il n'y a rien de plus. Donc c'est une private joke, mais en fait, il fallait avoir vu l'émission pour pouvoir le reconnaître.
D'autres questions ?
Indiscrète, je vais venir parler de votre bibliothèque qui a l'air consistante. Je pose tout en temps la question parce que, une fois que les gens partent, entre guillemets, une fois c'est dispersé, c'est vous avez prévu éventuellement un don. Je sais qu'il y a des gens qui confient leurs livres, aussi bien vos écrits que vos livres personnels à la Linec ou à d'autres organismes.
Il sera brûlé avec comme
Non. Alors là, vous soulevez le problème de l'âge.
C'était pas le but de la question. Je pensais à des gens comme Pierre Versin qui avaient entrepris.
Vous racontez une histoire qui est absolument vraie, que je n'ai pas racontée dans mon livre, puisque je ne raconte même pas les anecdotes. Et un jour, je vous dirai quand, j'ai reçu un coup de téléphone, puis j'entends une voix de femme jeune, mais pas d'enfant, jeune femme, jeune fille, me disant je vais vous passer un disque. Bon. Alors, j'ai écouté le disque. Puis au bout du disque, elle me dit, vous êtes toujours là? Et j'ai dit, oui. Ah, elle dit, c'est bien. Alors, vous êtes jeune, quel âge avez-vous? Et je lui dis l'âge que j'avais à l'époque, je lui dis, j'ai 21 ans. Et elle m'a dit, oh, vous êtes vieux. Crac. Et elle a raccroché. Donc, j'ai su que j'étais vieux de ce jour-là. Le 8 décembre, c'est-à-dire il y a deux jours, j'ai eu 77 ans. je ne m'estime pas tellement plus vieux que précédemment. Je suis toujours vieux, ça n'a pas changé. Et j'ai la chance d'avoir une fille, Barbara, qui s'intéresse à ce que je fais. Et lorsque, par exemple, elle a passé sa licence, elle a eu un professeur qui leur a parlé d'une nouvelle de Weird Tales qui n'était connue que par les extraits qui avaient été publiés dans une anthologie. Puis, la fois suivante, elle a demandé si quelqu'un voulait prendre la parole. Barbara l'a fait et a parlé de la suite de cette nouvelle. Et la prof a dit, mais mademoiselle, vous inventez, parce qu'on ne connaît pas la suite de cette nouvelle. Et Barbara, elle a dit, ben si, je l'ai lu dans les Weird Tales de mon père. Et la prof a failli défaillir. Parce qu'en fait, ma fille couchait dans mon bureau, où étaient les fameux Weird Tales, et à mon insu, elle les lisait tous les soirs. Donc je pense que l'auto-da-fé, après ma mort, n'est pas prévu. Alors, est-ce que c'est la question, est-ce que c'est parce qu'ils ont fait un four et qu'on n'en a pas vendu un, ou bien c'est à ce que, après d'avoir rencontré, il s'est révélé que c'était les salons.
C'est plutôt dans la deuxième...
Non. Il y a des gens avec qui je ne me suis pas entendu. Par exemple, je ne me suis jamais entendu avec Arlan Ellison, mais ça date de notre première rencontre qui a eu lieu justement en 69 à Rio. J'étais avec un Français dans l'ascenseur, on était invité donc, et il y avait le petit jeune homme, très petit Arlan Ellison, et qui nous a observé, et bon, le traduit, il a dit, je ne sais pas ce que vous dites messieurs, mais ça sonne abominablement français. Et il était ultra agressif. Puis après, j'ai pris en photo, ma femme n'était pas là, alors j'ai pu le faire, une très jolie fille nageant dans la piscine du Copacabana Palace. Arrive Arlan, dit à la fille, hey, « Hé, connasse, c'est pas un journaliste, c'est juste un éminable de la science-fiction. » Voilà quel était le genre du personnage. Donc on s'est jamais bien entendu. Quelqu'un qui m'a rapporté, il a dit, Sadoul est un bon éditeur, mais je ne l'aime pas. Mais ça ne m'a pas empêché d'éditer les Dangerous Visions, ça, pas du tout, du tout. Il y a des gens qui sont plus ou moins sympathiques. Loris McMaster Bujold, par exemple, je n'étais pas sympathique, elle était très froide, alors que Connie Willis était très sympathique. C'est, ce sont des choses comme ça, mais non, la réponse est non.
Et Philippe Cadic, en Israël, était totalement éliminé, est-ce que c'était quelqu'un de sympathique ?
Sympathique, oui, bien sûr, oui. Celui qui était un peu imbu lui-même, c'était Isaac Asimov. Il avait sa cour autour de lui. Il était un peu content de lui. Mais c'est presque le seul. La plupart des autres étaient des gens très, très simples, très gentils. Parler de son œuvre avant de voir était très difficile parce qu'il ne voulait accepter de parler que du livre en cours. C'est comme s'il avait oublié tout ce qu'il avait eu précédemment.
Ils avaient écrit, non ?
Ça, certainement. Je lui ai parlé de la phrase qui termine. C'est les fabricants d'armes, je crois. Et voici la race qui gouvernera le sévagramme. Mais Dieu, j'ai écrit ça, moi. Et à l'époque, il n'avait pas la maladie d'Alzheimer, il l'a eu plus tard.
Donc... Et Endlen, s'il vous plaît.
Pardon ?
Endlen.
Endlen, le grand bourgeois classique, distant, froid. Dans les lettres qu'on a échangées, il ne m'a jamais écrit lui-même, c'était sa femme qui s'en charge.
Arthur Clark, est-ce que vous pouvez parler un peu du début du club de l'anticipation ?
Oui, alors je réponds à la question sur Clark. Arthur Clark, c'est le type même de l'homosexuel froid anglais, qui est aimable, mais distant, et on a l'impression quand il vous parle qu'il regarde à travers vous. J'avais été pris en traître, tous ces auteurs, on l'avait prévu à l'avance qu'ils auraient à prononcer un speech à Rio. Et puis, Luis Gasca pour l'Espagne et moi, on n'était pas prévenus, nous n'avions rien dit du tout. Puis on a dit, bon, dites quelques mots. Donc j'ai été absolument minable, mais totalement minable. Et Arthur Clark m'a dit, Jacques, votre français est incorrect, mais parfaitement, votre anglais est incorrect, mais parfaitement compréhensible. C'était quand même un encouragement. Mais il s'occupait surtout de cinéma. Lui, on n'avait rien préparé, lui, parce qu'on avait dû préparer un truc, il n'avait rien préparé, et il appartenait des rapports avec Kubrick et de son film. C'était un monsieur qui était à part. Après, je l'ai retrouvé parce que il y avait Madame Lotte Eisner, ceux qui ont lu l'écran démoniaque ou le Moussant Fantastique, je ne sais plus, les dames allemandes, qui est arrivée, c'est une ancêtre presque, et elle m'a dit « Fouchet, chaque satoule ». J'ai dit « Affol ». Elle m'a dit « Fritz Lang, feu fouchoir ». Alors je suis monté, on m'a amené voir Fritz Lang, et il y avait Clark, et il y avait Robert Bloch, l'auteur de Psychose. Que j'avais, on avait fait connaissance la veille. Alors les Américains, c'est bien, on avait connaissance la veille. Il m'a dit « Hello Jack », comme s'il m'avait toujours connu. Lang a dit « Bon, mais s'il le savait comme ça, c'est peut-être qu'il est connu ». Et lui, en français parfait, m'a dit « Est-ce que vous êtes parent avec mon vieil ami Georges Sand ?» J'ai dit « Non, pas du tout, mais j'ai eu droit à une demi-heure d'entretien pour le drame. »
Et tu lui as demandé s'il était parent avec Jack Lang.
Jack Lang, je ne connaissais pas du tout à l'époque. Alors, vous m'avez posé une question là. Bon, alors, la clé d'anticipation, c'était Opta. Opta était une. Oh, ça veut dire Opta, office de publicité technique et artistique. Et c'est une boîte de publicité. Il se trouve que Maurice Renaud, le patron, connaissait personnellement l'un des Elric Queen, Frédéric Danet, et au point qu'il y a eu des. Vous savez, comme les échanges d'étudiants, là, la fille de l'un allait chez l'autre, et ainsi de suite. Et donc, il s'était créé une véritable amitié entre Danet et Renaud. Et Renaud était un grand amateur de romans policiers. Il faisait partie du jury, je crois, en prix pour les agents policiers. Bon, il a décidé de tenter des livres reliés, chers, le club du livre policier. Bon, ça a marché, parce qu'il a débuté avec les Arsène Lupin. Et qu'à ce moment-là, on trouvait les Arsène Lupin nulle part. Et tout, ensuite, à raison de 2 volumes par an, il a publié toute une série de romans policiers, 2 par tome, enfin un tome avec 2 romans, et très bien présenté, luxueusement, par souscription vendue sur Mister Magazine et Chop Magazine. Et lorsque je suis entré à la maison, je lui ai dit pourquoi. Alors, je suis entré pour m'occuper de Mister Magazine. Et pourquoi vous ne faites pas la même chose pour la science-fiction? Même réponse, la science-fiction c'est invendable, il n'y avait pas question. Bon, et il y avait Alain de Remieux qui était déjà là, qui m'a dit c'est pas la peine, je lui ai déjà posé la question, il ne veut pas, il ne voudra jamais. Bon. Moi j'ai insisté. J'ai insisté au point qu'il m'a dit vous cassez les pieds, faites un essai. Alors, j'ai acheté Fondation, parce que le Fondation, le premier, était connu et pas les 2 suites. Et Renaud m'a dit, les livres policiers sont tirés à 4000 exemplaires, là on va seulement tirer à 3000, parce que de toute façon on n'en vendra pas. Donc on l'a mis en souscription dans Fiction, je ne sais pas si avec Galaxy, je ne me rappelle plus, dans Mystère Magazine, Hitchcock, partout. Et en plus, l'imprimeur, qui normalement a droit à la passe, et qui généralement la passe, c'est-à-dire en plus, là, il n'en a tiré que 2800 au lieu de 3000. Avant même que le livre paraisse, ils étaient tous vendus. Et j'ai vu ce livre à des prix exorbitants sur eBay ou ainsi de suite. Là, et alors, il était mal présenté. Au lieu de la toile, c'était un carton. Avec une espèce de comète jaunâtre très vilaine, pas de jaquette rhodoïde, etc. Bon, quand Renaud a vu ça, il m'a dit, ah ben oui, ça a marché, alors continuez, mais il faut que Alain de Remieux paraisse comme co-directeur de la collection, parce qu'il est connu des lecteurs de fiction. Il faut savoir qu'il s'entendait très mal avec de Remieux, et moi pas bien. Donc, j'ai fait la liste des livres qui me paraissaient nécessaires de mettre là-dedans. Dorémy a fait la sienne. Et puis nous avons fait un référendum auprès des lecteurs, parce qu'il s'est passé plusieurs mois entre le premier et le second. Et il s'est trouvé que le référendum des lecteurs était très proche, pour un titre, de ma liste. Donc c'est ma liste qui est passée. Dorémy a dit ça prouve bien que vous avez mauvais goût, vous avez le goût de la prochaine. Voilà, et puis ensuite, ben, je suis parti, c'est d'aurait mieux, avec deux buts qui ont continué, puis quand aurait mieux été vidé, c'est Bergier qui, à la fin, a fait les... encore d'autres, et Bergier, je crois, Daniel Balter à la fin. Voilà. Et d'aurait mieux a choisi, je crois, les livres de Selbourg. Quant à ce que le sergent que j'avais retenu, bien sûr, ben, ils ne sont parlés qu'après mon départ, toujours pour le même problème, personne n'avait réussi à lui faire signer les contrats, on ne savait pas où il était.
Excusez-moi, ils étaient illustrés, si je me souviens.
Oui, oui, oui. Ben, les Drugiel a fait beaucoup. C'est chaque fois des dessinateurs différents. C'est peut-être l'heure. Je sais
pas. Encore, monsieur.
Oui. Oui, vous avez dit que vous avez parlé des auteurs que vous avez publiés. Est-ce que vous avez des regrets d'un auteur ou de plusieurs que vous auriez refusé?
Des regrets d'auteurs que je n'ai pas pu publier, ça évidemment beaucoup. Par exemple, Georges Luis Borges, mais évidemment Gallimard avait tous les droits. Donc, ça c'est un petit peu même des auteurs que j'aurais voulu publier. Alors, d'auteurs que j'ai refusés... Où il doit y en avoir, mais alors là, ça ne me vient pas à l'esprit comme ça. Mais il doit y en avoir. Bon. Ben si, il y a. Donc, il y a eu un cas spécial. Rappelez-moi l'autre. Endymion.
Ah oui.
Dan Simmons.
J'avais publié le premier livre de Dan Simmons. Et d'ailleurs, Dan Simmons était content parce que la première fois qu'il est venu en France, arrivé à Roissy, il a vu son livre dans les présentoirs. Donc il était très content. Et son gros livre qui a fait un très gros succès, là, il était très gros. Et donc j'ai dit, il faut que je le publie en deux tomes. J'ai donc demandé l'autorisation à l'agent de faire en deux tomes, puis j'ai pas eu de réponse. Et puis ensuite, j'ai appris qu'il avait changé d'agent et que le nouvel agent l'avait vendu à Gérard Klein pour Ailleurs et Demain. Donc, c'est pas que je l'ai refusé, mais j'ai vraiment le regret, je l'ai raté.
D'ailleurs, le premier que vous avez publié, c'est un bruit de guerre, je sais pas quoi.
C'était que. Non, ça se passe à Calcutta, mais c'est le festin de Shiva, je crois. Où...
Mais il est introuvable.
Ah, ben oui. C'était quelque chose de Shiva, en fait. Le chant de Kali. Ah, oui, Shiva fait Kali, je me trompe. Le personnage, le panthéon.
Il n'a rien à voir avec le chanteur. Hein.
Alors pour terminer, oui. Je vais vous montrer. Donc,
refaire son discours.
Je vais pas faire mon discours, mais c'est l'autre côté.
À l'envers. Je vais vous le dire à l'envers.
Donc tout à l'heure, je m'interrogeais sur le temps principal. Je dis que le personnage de Philippe Dick questionnait le Viking, qui répondait c'est vrai. Alors ça, je ne sais pas comment il a pu obtenir cette réponse, parce que ce n'est pas le type de réponse qu'on trouve facilement dans les Vikings. Mais moi, j'ai consulté les Vikings sur la réalité du monde dans lequel nous vivons et du temps dans lequel nous vivons. Alors, j'ai eu cette réponse-là, voilà. C'est l'hexagramme qui s'appelle Tchéro et qui signifie « mordre au travers ». Alors, je vous laisse interpréter comme il vous plaît. C'est la réponse du Viking. Je vous remercie.
Très bonne soirée.